1 Samuel au chapitre 7. Nous allons considérer, comme je le disais tantôt, spécialement le verset 12. C'est quand même assez rare que je fais ça prêcher d'un seul verset. Tous les points du message sont dans un verset, mais le contexte nous aide vraiment à bien comprendre justement tout le sens de ce verset. Donc c'est le verset qu'on va lire pour l'instant. Puis on va en voir pas mal d'autres à travers le message, mais c'est le fameux passage où est-ce que Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem et la place du nom d'Eben-Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » On te remercie, Seigneur, que tu es le Dieu qui secourt. Tu es le Dieu qui délivre, qui sort quiconque de n'importe quelle situation, Seigneur. Il n'y a rien qui est en dehors de ta portée. Il n'y a jamais de situation trop difficile, ou comme le disait la sœur de cette femme dans un camp de concentration, il n'y a pas de trou assez profond où est-ce que Dieu ne puisse nous atteindre. Et Seigneur, on te remercie de ce que tu es ce Dieu qui répond à ceux qui t'invoquent, ceux qui, oui, du fond de la fosse, t'invoquent et tu places nos pieds sur le roc, sur Christ, inébranlable, sûr, certain. Merci, Seigneur, que ce matin, on peut considérer ta parole vivante. Ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on contemple les merveilles de ce que tu as pour nous ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
La pierre du secours, c'est le titre du message ce matin, c'est bien simple, la pierre du secours. On va situer un peu, évidemment, notre verset qu'on vient de lire dans son texte historique, qui est rédempteur, l'histoire de la rédemption. Mais juste pour vous expliquer un peu, quand on parle de la pierre du secours, dans le verset 12, c'est ça le sens de l'expression hébreu « Eben-Ezer ». Et ça, c'est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous secourt, nous tire du malheur, de la déchéance, de la guerre spirituelle qui fait rage, de ce monde brisé qui nous décourage souvent. Il y a un cantique là-dessus, ceux qui connaissent en langue anglaise. « Come thou fountain », et il y a vraiment une ligne très connue là. « Here I raise my Ebenezer ». Puis les gens, moi, quand j'ai joué au début, je sais pas ce que ça veut dire. C'est là que j'établis mon Ebenezer. Ben, ça vient de ce texte-là. Mais je sais pas si vous savez, mais Robert Robinson, a écrit ce cantique, Come Thou Fountain, en 1758. Où est-ce qu'il était à Londres, disons, avec des mauvais garçons, pour mauvaise fréquentation, mauvaise habitude. Mais un soir, après une série d'événements, ce qui l'ont conduit à assister à une campagne d'évangélisation où George Whitefield prêchait l'évangile, il a été sauvé. Et là, vient de là, c'est son Ebenezer. De là vient la deuxième ligne de ce fameux cantique. C'est là que j'établis mon Ebenezer. Ce moment Ebenezer dans la vie chrétienne et ce moment où est-ce que on reconnaît que Dieu est notre secours. Évidemment, on le voit pour lui avec son salut. C'est là que le rocher de son secours, c'est là qu'il a connu Christ, le rocher de son secours. Mais je dirais que c'est même bon pour la vie chrétienne. Lorsque Dieu intervient dans notre vie pour nous secourir, nous délivrer, nous faire passer au travers des moments de notre vie, oui, ça commence par le salut, la délivrance éternelle de la condamnation qui repose sur tout homme qui n'est pas encore sauvé, gracié par Dieu au moyen de la croix du calvaire, mais aussi pour un enfant de Dieu qui est passé par la croix, qui est lavé dans le sang de l'agneau. Est-ce que vous pouvez reconnaître en tant qu'enfant de Dieu ce moment déterminant, ce point tournant dans votre vie chrétienne où Jésus-Christ est devenu la pierre de votre secours? Ou pour le dire autrement, votre identité, votre vie, un point tournant. Et je ne parle pas du salut, je parle de la sanctification, de gens régénérés. Il faut comprendre ici, je vais développer ça durant le message, mais juste pour développer un peu, il faut comprendre ici qu'il y a une typologie. Une typologie rédemptrice. Où est-ce que Israël ici demande un roi? Dans le contexte plus large, on est dans le bout où est-ce que Israël va demander un roi comme les nations. Hein? Il recherchait le secours ici-bas. Il recherchait avoir le secours comme les autres nations. au lieu de mettre leur confiance en l'Éternel, le grand roi, l'authentique, unique, incomparable roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu est très clair lorsqu'ils ont demandé ce roi. Dieu leur dit aujourd'hui, dans chapitre 10, verset 19, « Aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites « Établis un roi sur nous. » Donc, ce n'était pas juste un choix comme ça sans conséquence. C'est un choix qui est un rejet. Il demandait quelque chose, mais il rejetait en même temps Dieu. « Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus, selon vos milliers. » Donc, c'était un choix qui était lourd de conséquences. En fait, j'y vois aussi le contraste entre l'homme naturel qui ne voit que les choses d'ici-bas versus l'homme spirituel. Mais on peut même aussi faire la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Lorsqu'on a la pensée de Christ, lorsque on est attaché aux choses d'en haut, on recherche les choses d'en haut. Et donc, on voit ici une image de rechercher le secours, la délivrance, soit chez l'homme versus chez Dieu, le leader bienveillant, le bon berger, le roi parfait, psaume 23, psaume 24, psaume 22, le roi qui s'est donné. Psaume 22, 23, 24, c'est tout messianique, c'est vraiment c'est le sacrifice de Christ, son ministère actuel de bon berger, puis le roi qui revient, qui règne, ouvrez les portes, les linteaux, il s'en vient pour régner éternellement. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble avec notre texte aujourd'hui. Trois contrastes entre le secours de l'homme versus la pierre de notre secours. Dans le verset 12, lorsque Samuel parle ici, il prend cette pierre et la place, vous allez voir l'endroit est même significatif, on va voir ça plus tard, mais il place entre Mitzpah et Shen et il l'appelle du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici. On voit ici un contraste entre la brièveté et la pérennité. Pourquoi? Parce que on apprend, dans la suite, on n'a pas lu chapitre 8, mais on apprend que le bon leader Samuel a eu une mauvaise succession. Ses fils ne craignaient pas l'Éternel. Ses fils ne marchaient pas dans les voies de l'Éternel. Ça nous montre la brièveté du leadership de l'homme, qui peut avoir des bons leaders, mais que une génération après, ça peut changer. Mais même au-delà de ça, dans le plan rédempteur, on voit le contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui était temporaire, qui était constamment sujet à l'échec, avec une succession tout le temps de sacrificateurs, de rois, qui pouvaient toujours... Il y en avait des bons, des fois ça allait mal. Donc, et la loi n'était que temporaire, on apprend ça dans Romains 10:4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, il y a un contraste entre la brièveté ici de l'ancienne alliance versus la pérennité de la nouvelle alliance, la grâce éternelle. Écoutez ce qu'on peut lire dans Hébreux 8. Écoutez bien, je vais vous lire le passage Hébreux 8, 7 à 13. « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » La brièveté versus la pérennité. Et ça, c'est important parce qu'on est dans une guerre spirituelle constante. On voit hein, dans l'Ancien Testament, il y a tout le temps des guerres. Ça, il y a un ennemi qui était vaincu, puis ça, whoop, il y en a d'autres qui se soulevaient. Puis... C'est une image aussi de... On est dans une guerre spirituelle, on peut avoir des fois des épreuves comme ça, puis il y a des choses qui se répètent, whoop, il y a une autre épreuve. On est dans un monde déchu où est-ce que... On n'est pas dans... Dans un monde qui n'a pas d'épreuves, qui n'a pas de difficultés. On trouve notre repos dans le Seigneur, sa grâce est suffisante. Amen. Mais comme Jésus est venu, qui était un homme de douleur, accoutumé à la souffrance, ben nous aussi, on est dans un monde comme ça, où est-ce que les choses ne vont pas toujours comme sur des roulettes, comme on dit. Ça fait partie des conséquences de la chute. Maintenant, tout se joue, la différence se joue, où est-ce que il y a un point dans le temps, un point Ebenezer, un point où jusqu'ici, là, on dit jusqu'ici, l'Éternel secourut, puis là, le Seigneur marque un point dans le temps où est-ce qu'on expérimente, on choisit la vie échangée. Il y a un commencement à ça où est-ce qu'on comprend notre identité en Jésus-Christ. Pour certains ici, vous le savez, vous l'avez vécu. Et je ne parle pas d'une deuxième expérience de salut, je parle de saisir la réalité de notre premier amour. C'est pas une deuxième expérience de salut, c'est revenir à la simplicité du salut qu'on a, de la vie qu'on a en Jésus-Christ. Dans ma vie personnellement, par rapport aux luttes, tu sais, les luttes, on a tous des luttes. On n'a pas tous les mêmes, on a tous des luttes. C'est constant. Les hauts, les bas de la vie chrétienne, la défaite, la victoire. Être habitué à la défaite, surpris par la victoire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, par sa grâce, il veut qu'on soit une vie où est-ce qu'on est habitué à la victoire. Et oui, on est surpris par la défaite, parce qu'évidemment, on n'est pas sans péché, dans la perfection, ici-bas sur terre. Mais Dieu veut nous amener à voir, à expérimenter la brièveté du secours du bras de la chair. La chair ne sert à rien, puis il veut nous le montrer chacun pour nous-mêmes. Et quand on arrive à ce point-là, et j'en parle d'expérience, où est-ce qu'on voit qu'avec, tu sais, nos patterns de la chair, nos mécanismes de défense, comment qu'on a tout le temps été habitué à agir quand il arrive des affaires, versus le jour où le Seigneur nous ouvre les yeux sur « Hey, le juste vivra par la foi. » C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis si je vis là, dans cette chair, là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur le fait que on a été crucifié avec Christ, quand Christ est mort sur la croix, on est mort avec lui, puis maintenant on est rendu à la vie. Romains 6, la grande déclaration d'émancipation de la vie chrétienne. Ça, c'est tout ce qui fait la différence dans cette guerre spirituelle, c'est le contraste entre la brièveté du secours de la bonne volonté humaine de la chair versus la pérennité de la grâce de Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dieu est fidèle, sa grâce est suffisante. Amen. Et ça, quand on le recherche, on le trouve. Et ça fait des années qu'on le recherche, puis Dieu nous le fait trouver, c'est merveilleux. C'est toi qui... Non, toi, t'as cité Romains 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses grandes, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 29:13 aussi, ça dit, « Vous allez me trouver si vous me cherchez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est vrai. Dieu, au-delà de l'échec, au-delà de la défaite, il se laisse trouver pour être notre victoire, notre espérance, notre satisfaction, notre repos. C'est la pérennité du secours de l'Éternel. Ça nous amène au deuxième contraste ici, qui est plus au niveau relationnel. Ça dit jusqu'ici, ensuite ça dit l'Éternel. L'Éternel nous a secourus. Mais je veux regarder le mot, le nom, l'Éternel, qui est le nom de l'Alliance. C'est le nom de Dieu, le « Je suis ». On voit là-dedans un contraste entre la sévérité versus la liberté. Puis quand je dis sévère, sévérité, c'est le sens implacable, impersonnel de la loi. La loi nous dit « Fais ceci et tu vivras. » Puis aussi, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. C'est très implacable, c'est sévère. Mais si ça dit l'Éternel, l'Éternel est un Dieu personnel, est un Dieu relationnel qui nous donne sa grâce lorsqu'on marche avec lui. Donc, ici, on voit un contraste entre le sens implacable d'une vie basée sur la loi, essayer de plaire à Dieu basée sur notre performance versus une relation basée sur l'acceptation que nous avons déjà pleinement en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vraie liberté. Vous avez vu qu'un enfant de Dieu, là, c'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu pêche, mais encore mieux que ça, un enfant de Dieu qui a une relation vivante avec Dieu, il veut pas pécher. Il est libéré même du désir de pécher. C'est pas que là, des fois, ça nous arrive pas et ça nous prend, mais c'est ça la liberté. La liberté chrétienne, c'est pas la liberté de faire n'importe quelle niaiserie. C'est la liberté, on est libéré de nous-mêmes, du péché, de toutes ces tendances qui nous tirent vers le bas. Plus on s'acquiert notre relation avec Dieu puis sa grâce, plus on est libéré de ces choses qui nous tirent vers le bas, puis on a la vraie liberté qui nous tire vers le haut, puis c'est la vraie liberté de marcher par l'Esprit avec le Seigneur. Amen. Et il y a une image ici, parce qu'on parle de roi. Hein, les nations ont demandé un roi plus tard, ben pas les nations, pardon, Israël a demandé un roi comme les nations. Et je vous lis ici, lorsque Israël a demandé un roi, puis Dieu a dit, ok, donne-leur les conditions. Écoutez ce que ça dit, chapitre 8, verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Et on apprend que ce roi-là, il prenait, il asservissait. On ne va pas voir tous les détails de ça, mais dans les versets 11 à 18, on voit que dans le fond, il fallait tout qu'il donne au roi. Le roi était quelqu'un qui, tout lui était dû. Et il asservissait le peuple. Comparez ça maintenant à Jésus, le bon roi, le bon berger, le roi des rois qui dit, vous connaîtrez la vérité, puis c'est Christ la vérité, et la vérité vous affranchira. La relation avec le vrai roi, le bon roi, pas comme celui des nations, le seul vrai roi légitime, c'est la vraie liberté. Et on a ici ce qu'on voit dans le fond. Savez-vous? Dans les passages de même, on voit, il demandait quelque chose de légitime, mais il ne regardait pas de la bonne façon, au bon endroit. Puis ça, c'est tellement typique humain, je veux dire, on a besoin d'être sous la direction d'un dirigeant. Je veux dire, on ne sait pas trop où s'en aller, Dieu nous compare à des brebis, puis là, on fait, mais là, ici, il demandait un roi comme les nations. Il y avait déjà le bon roi, mais il ne demandait pas la bonne solution à leurs problèmes légitimes. Et nous avons en nous, en tant qu'humains, un besoin fondamental de liberté sous la direction d'un dirigeant. Il y a un peu une contradiction là-dedans. On dit dirigeant, c'est comme ça limite les libertés. Bien, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de dirigeant, pardon, c'est une liberté débridée qui n'est pas une liberté, ça devient l'esclavage. OK? Comme le fils prodigue, je m'en vais, puis tout ça, puis il était pas libre, là. Il est devenu esclave de plein d'affaires. Il pensait bien qu'il était libre, mais il l'était pas. Puis ici, on a cette image de ça, ils ont demandé un roi pour être comme les nations, pour avoir la liberté de ces nations qui nous oppressent, finalement, sont devenus bien plus esclaves qu'ils l'étaient avant. Mais on voit de ça, là-dedans, un besoin fondamental de l'homme. Et savez-vous qu'on soupire après ça, même en tant qu'enfant de Dieu, après cette liberté? La création soupire, puis aussi nous autres, ce n'est pas seulement la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur. On soupire après cette liberté. Quand il n'y aura plus toute cette oppression de cette guerre spirituelle qui nous tire vers le bas, on a hâte de vivre cette liberté pleinement. Mais ici-bas sur terre, déjà, à cause que Dieu est proche, à cause qu'il est vivant, on peut vivre cette liberté. Écoutez ce que ça nous dit dans Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Autrement dit, ne demandez pas un roi comme les nations. Vous avez déjà le bon berger. Vous avez déjà le roi qui vous a rendu libre. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La chair nous a servi tout le temps. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Et on était sauvés pour être libérés, pour goûter la vraie liberté. Savez-vous que La liberté, c'est le retour au plan original de Dieu. Maintenant, je vais amener une réflexion par rapport à ce qu'on a vécu dans les trois dernières années. Pensez-vous que c'est un hasard que notre société s'est ri de la liberté? Des gens qui, même ici au Québec, on disait liberté. Puis je comprends que beaucoup de gens, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui c'est un peu comme des gens qui demandaient un autre droit, puis tout ça, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu qui connaissons c'est quoi la vraie liberté, il y a une réflexion pour nous autres là-dedans. Je veux explorer ça un peu avec vous autres. On va parler de sécurité dans le prochain point, mais parlons avant, parce que, souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Donnez-moi, est-ce que le bargain, le peuple disait, donnez-moi de la sécurité, puis je vous donne des libertés. C'était pas mal ça le deal, là. OK? Puis en passant, c'est historique, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est arrivé juste dans les trois dernières années. C'est un pattern qu'on voit souvent. Ah, oh, il y a des menaces, puis tout ça. Je vais vous donner la sécurité, mais vous me donnez la liberté. Ça, là, c'est un pattern, ça vient de Satan. OK? Parce qu'on a des peurs, puis Satan nous promet, hein, la sécurité, qui est même pas une vraie sécurité, pour une liberté qui est même pas une vraie liberté. C'est tout faux, c'est de la contrefaçon. OK? Mais là, je veux juste amener quelque chose par rapport à ça. C'est quand même quelque chose que le gouvernement puis les médias, bon, tout, les dirigeants de ce monde, et en tout cas en Occident, beaucoup, ont attaqué, ridiculisé pendant 3 ans la liberté, mais dans le fond, c'était pour rendre esclave, pour légitimiser l'asservissement. Il y a quelque chose de grave là-dedans, dans le sens que c'est contre le plan rédempteur de Dieu. Dieu est venu pour donner la liberté. Satan, le prince de ce monde, veut l'enlever, veut asservir, et il marche avec la peur, alors que nous, comment qu'on marche? On marche avec la foi. Amen. Et c'est là toute la question, je pense, que ce que Dieu a fait ressortir, où est votre foi? Quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Et où notre confiance? Où est-ce qu'on veut trouver la sécurité? Où est-ce qu'on veut trouver la liberté? Dieu a posé cette question-là à son Église. C'est un moment de réflexion pour nous, pour dire, ouais, c'est vrai, on l'a cherché où notre sécurité? On l'a cherché... Cherchez où notre liberté? C'est ça que j'ai dit, la question, c'est pas « Ah, moi, l'Église, on a fait ça, nous, on a fait ça. » C'est pas ce qu'on a fait, c'est où était notre confiance. C'est ça, la question. Puis d'où la confiance va ressortir, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, puis, OK? C'est vraiment une question de confiance. Maintenant, je crois que, à travers ce qu'on a vécu, si... OK, moi, je pense que vraiment Dieu a permis ce qui est arrivé pour révéler quelque chose par rapport à nous-mêmes. Ah, il y avait une bonne affaire dans les messages. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté les messages quand j'ai envoyé le lien là, de M. Kurt Kelly à la conférence? Il y en a un qui disait, tu sais, quand que Dieu il était dans le jardin puis il dit, vous êtes où? On parlait de ça hier. C'est pas parce que Dieu se grattait la tête puis ouais, non, ils sont où Adam et Ève? Dieu savait, évidemment. Là. Fait que Dieu voulait pas une information pour eux autres les trouver. Vous voyez comment Kurt Kelly disait? Il voulait qu'eux se trouvent. Il voulait qu'eux se voient comme perdus, comme dans le besoin. Puis, je parle que Dieu, avec ce qu'il a permis en 2020 à 23, ou 22, là, disons, c'était pour que nous, on se voit puis on se trouve. Coudonc, on est comment comme corps de Christ, comme l'Église du Dieu vivant? Est-ce qu'on incarne ce que notre Dieu est? Je veux dire, s'il y a une liberté dans ce monde-là, ça doit bien être dans l'Église du Dieu vivant. Le reste, je veux dire, c'est comme les nations, ils veulent un roi, puis finalement, ça donne un méchant mauvais deal, où est-ce que, comme on voit dans la parole, puis on voit à travers l'histoire, c'est pas la liberté. Donc, voyons vraiment ici, je pense que c'est un appel de Dieu à se regarder dans le miroir de la parole, et à voir où est la réelle liberté. Puis pensons-y, ça nous a bien montré la sévérité des dirigeants de ce monde. Jésus a dit les tyrans, comment quand il parlait à ses disciples, les grands les tyrannisent, mais vous allez être serviteurs les uns des autres. Un peu comme ça dit justement, comme je l'ai lu, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour. Serviteurs les uns des autres. Ça, c'est la liberté d'aimer, la liberté de faire du bien, la liberté de la vie de Christ en nous, à travers nous. Ça m'amène au troisième contraste. Non seulement il y a un contraste de brièveté versus pérennité, sévérité versus liberté, mais parlons de secours maintenant, la vanité versus la sécurité. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu ne les avait jamais laissés tomber. Il nous a secourus. Dieu était là toujours pour secourir Israël. Et on sait que Israël, malgré ça, demandait un roi comme les nations. Ésaïe nous parle de ça. On a ici, moi, tu vois que je lis Ésaïe, je pense tout le temps à mon frère, Maxime. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Hey, c'est bon des idoles, hein? Que ça nous secourt. Vanité versus sécurité. Écoutez aussi, ça c'était Ésaïe 41-29. Écoutez aussi 57-13. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera, mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Amen. Pas mal de contraste, n'est-ce pas? Vanité versus sécurité. Et je vous lis aussi, il y a même un cantique là-dessus. Il y en a plusieurs, mais dans Psaume 115. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations disent-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent. Tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Un contraste, verset 9, Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. You get the point? T'sais, c'est comme il répète là, ok? Confiez-vous, il est le secours. Donc, on voit vraiment un contraste entre la vanité des idoles et du secours humain versus celui de l'Éternel. Et je parlais d'un petit regard en arrière sur ce qu'on a vécu dans les trois dernières années. Vous savez, on a vécu, je pense que Dieu a permis de mettre à l'avant-plan la guerre spirituelle qui était déjà là, mais de nous la faire plus voir. Mais je pense que c'est pas fini. Est-ce que Satan est parti en congé à Honolulu, puis il n'y a plus de guerre spirituelle? Non, il y a encore une guerre spirituelle. Mais c'est plus aussi frontal et évident que ça l'a été pendant, spécialement 2020 à 2022. Les attaques sont plus subtiles et sournoises. En fait, c'est peut-être encore pire. Parce qu'on n'est plus sur nos gardes, on ne fait plus attention. On peut tomber dans l'apathie, dans la zone de confort, la perte de vigilance spirituelle. Et je dirais, de façon généralisée, la chrétienté est retournée dans ses pantoufles. En ce moment, dans la complaisance. Et continue à manquer le bateau. Et là, je pense à Noé, là. Jésus. Jésus, notre vie. Pourquoi? Ben, je pense qu'on ne le voit pas beaucoup manifester. Sauf quelques rares exceptions. L'apathie est encore là. Est-ce qu'on a appris de notre leçon? Et là, à ce sujet, je veux dire quelque chose de très important à écouter ce matin. N'oublions jamais. Ici, là, je parle à l'Église. Là. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait dans les trois dernières années? Puis même avant, là, mais Dieu a fait des choses extraordinaires. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
Amen.
Mais n'oublions jamais que si on veut que ça continue et que ça grandisse, on doit constamment se rappeler que ce n'est pas à cause de nous, c'est l'Éternel qui nous a secourus. Et non, on ne veut pas tomber dans les différents et multiples pièges de la chair, du monde, du diable, mais toujours se rappeler que c'est l'Éternel qui secourt. On doit avoir cette conscience aiguisée que la chair ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Et on doit pratiquer ce que la Bible nous dit lorsqu'elle parle de marcher par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, d'être rempli de l'esprit, de vivre à la lumière du fait que Christ, nous sommes morts avec lui et maintenant vivants pour lui. Et à la lumière de ça, on offre nos membres à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à lui. Pourquoi? Parce que on ne veut pas tomber dans l'apathie. Et je pense qu'encore, comme 2020, on l'a dit souvent, 2020 à 2022, ça a été un rendez-vous divin. Dieu nous a rencontrés. On a expérimenté la bonté de Dieu, sa fidélité. Mais encore, l'appel est là. L'appel constant à sa grâce, à Dieu qui est un secours en tout point. Et je veux amener votre attention sur... On a beaucoup regardé la dernière phrase du verset 12. Mais où est-ce qu'il a placé cette pierre? Puis quand on voit Pierre là, dans la Bible, là, rocher, pierre, pensant en Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment, c'est constant. Les types dans la Bible, c'est toujours constant. Fait que quand on voit une pierre, un rocher, ça parle de Jésus-Christ. Et donc, Samuel a pris une pierre, puis l'a placée en Mitzpah et chêne. Ça fait pas une... Des fois, dans l'hébreu, c'est compliqué des fois savoir le sens précis d'un terme, dépendamment des mots, s'ils sont plus ou moins communs. Mais Mitzpah, ça veut dire une tour de garde, une tour de surveillance. Et chêne, c'est une pierre coupante. OK? Pointue, là, ou coupante. Savez-vous que le mot chinois pour épreuve, c'est le mot danger puis opportunité? Ben, il y a ça un peu ici. Une pierre coupante, il y a un danger, mais aussi, si on est une sentinelle vigilante, on voit Dieu, il y a une opportunité. Oui, il y a des dangers, mais Dieu nous donne l'opportunité de le rencontrer. Et l'Ébénézer, la pierre de notre secours, oui, c'est dans un monde où est-ce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers, on peut tomber dans l'apathie, on peut tomber dans la complaisance, on peut tomber dans les différents pièges qu'il peut y avoir, mais qu'on voit que c'est surtout une opportunité pour, justement, bâtir notre vie, grandir dans cette vie de grâce sur la pierre, le rocher inébranlable de notre salut. Il va toujours y avoir dans ce monde ici-bas des dangers. Donc, dans un monde déchu, le monde idéal d'Éden, et ça fait longtemps qu'il est parti, puis quand Dieu va revenir, qu'il va restaurer toute chose, il va rétablir, mais là, on est dans l'entre-deux du « ça va pas aussi bien qu'on voudrait ». Donc, c'est une réalité inévitable, mais ça veut dire qu'on a toujours des nouvelles opportunités d'expérimenter la grâce de Dieu. Et pour le dire autrement, de rencontrer le Dieu de toute grâce. Et donc, voici mon appel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton moment Ébénézer? Et je parle pour la délivrance de ton âme. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Si vous n'êtes pas sauvé, la réalité de la mort physique, de la mort éternelle, du jugement de Dieu repose sur vous. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc, si vous avez la connaissance de ce Dieu dans votre tête, mais que vous ne le connaissez pas personnellement, qu'aujourd'hui puisse être votre Ébénézer, le jour où vous décidez pour vous-même, par vous-même, de faire de Dieu le Dieu de votre salut, de votre secours. Il vous appelle à lui. Puis il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc l'appel est là, si vous n'êtes pas sauvé qu'aujourd'hui, puissiez mettre votre foi dans le Dieu vivant, le Dieu qui sauve. Et pour vous, les enfants de Dieu, que personne ne soit endurci par la séduction du péché. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et les péchés les plus sournois, c'est les plus subtils, les plus acceptables. C'est eux qui nous prennent puis qui nous éloignent, ceux qu'on a les plus rationalisés. N'arrêtons jamais de rechercher l'Éternel, de voir dans ce qu'il nous envoie dans notre vie des appels à lui-même, des rendez-vous divins à ce Dieu merveilleux. Donc, c'est ça mon appel, venons à lui. C'est la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Et si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une pierre dans cet édifice majestueux de sa grâce, dans l'Église du Dieu vivant. Et donc, qu'on vienne à lui. Seigneur, on te remercie parce que tu es le Dieu vivant et tu es le Dieu qui secourt. Et Seigneur, rien n'est trop difficile à toi, rien n'est impossible à toi. On t'invoque, Seigneur, on vient à toi pour ton secours qui est unique et incomparable. Tu connais nos besoins, tu connais nos situations, tu connais aussi les cœurs, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Ah, Seigneur, qu'on puisse voir ta vie jaillir, se manifester dans la vie de chacun ici, que ce soit pour la première fois, pour ceux qui passent de la mort à la vie ou pour tes enfants, Seigneur, on veut s'accrocher au pan de ta robe comme ça a été prié tantôt. On ne veut pas s'appuyer sur notre chair, sur nos raisonnements, mais sur toi, Seigneur, et toi seul. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.